D'être venu ce midi pour cette conférence qui est intitulée « Les romans d'aventure, c'est pour les grands ados et les adultes émerveillés ». On va voir si nos auteurs sont des adultes émerveillés ou des vieux grands ados, peut-être les deux. On va en discuter avec eux. Ils sont plutôt classés dans la littérature jeunesse. Alors, je vais mettre « plutôt » et plein de guillemets parce que les frontières sont parfois un petit peu floues hein, dans tout ça. On verra ce qu'eux en pensent. Autour de cette table, à côté de moi, Emmanuel Nuc, qui a fait... J'ai bien dit, comment on dit ? Nuc. Emmanuel Nuc, mes excuses. qui a fait Bord dommage chez Castelmore, je peux essayer de le montrer. Colin Thibert, qui a fait notamment Samiens, le voyage vers l'autre monde, mais aussi plein d'autres choses. Hein, Noël au balcon, Royal Cambouis, mes chers voisins... On va peut-être dire un petit mot de tous ces titres-là. Et puis Sandrine Wolf et Anne Plichota. J'ai bien dit Wolf et Plichota. Wolf. Enfin, voilà, qui ont commis un excellent, d'excellents romans avec Oxa Pollock. Peut-être une première question. Est-ce que c'est un choix d'écrire plutôt pour la jeunesse ou est-ce que c'est un peu les aventures éditoriales qui, à un moment, font que vous vous retrouvez dans cette catégorie ou dans ces collections-là ? Peut-être pour Oxa Pollock.
Non, nous, on a pas eu l'impression et le désir spécifique, je dirais, d'écrire pour de la jeunesse. Quand on écrit, on n'identifie pas notre lecteur, en fait. Voilà, c'est un lecteur qui a pas de forme, qui n'a pas de sexe, qui n'a pas d'âge. Et c'est vrai qu'on a avancé comme ça, avec peut-être... ça nous permet aussi d'avoir plusieurs niveaux d'écriture et plusieurs niveaux de lecture aussi pour celui qui va nous lire, de se détacher finalement d'une définition très précise du lecteur qu'on pourrait toucher. Et on a intégré dans notre histoire des personnages qui ont plusieurs âges, en fait, toute génération. Ça va vraiment de la jeune fille qui a 13 ans quand on la découvre, jusqu'aux plus âgés qui ont 80 ans et qui ont aussi un rôle très, très important à jouer dans l'histoire. Et du coup, chaque lecteur se retrouve à quelques niveaux ou quel que soit le personnage auquel il va s'identifier. Donc c'est dur hein, de classer, c'est presque dommage d'avoir à classer, mais je sais bien que c'est une nécessité à la fois commerciale, de libraire, d'éditeur, ça part même de ce point-là, libraire, bibliothécaire, on classe tout et tout le monde le fait, mais c'est inévitable, mais pour nous c'est un peu frustrant d'être dans cette petite case qui ne nous correspond pas intégralement, je dirais.
D'accord, c'est bien, on attaque déjà dans le vif du sujet sur les cases et sur les classements. Non, mais c'est, au contraire, c'est très bien. Petite réaction là-dessus ?
Oui, classé, parce qu'un jeune qui va en librairie ou dans une bibliothèque, voilà, il y a des classements. On sait que si on va dans le genre fantastique, plutôt jeunesse que adulte, nous, Oxa, en bibliothèque, par exemple à Strasbourg, c'est en jeunesse et chez les adultes. Donc,
c'est chez les deux.
Chez les deux.
Pas la question. Colin ? J'ai allumé sinon l'autre micro, le micro sur fil.
Je ne peux qu'adhérer à ce qui vient d'être dit. C'est vrai que moi, quand j'écris, je ne me pose pas du tout la question. Après, c'est l'éditeur qui me dit oui, ça tiens, à partir de tel âge, bon, très bien, tant mieux. Moi, j'ai tendance à penser qu'il faut toujours lire les livres qui ne sont pas de son âge. Et j'ai commencé très très fort. Dès que j'ai su lire, j'ai lu des trucs invraisemblables. Je racontais tout à l'heure à quelqu'un que j'avais lu Camus à 10 ans. Ça paraît très prétentieux comme ça, je ne sais pas ce que j'en ai retenu. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un très beau livre, L'étranger. J'ai sans doute pas compris ce qu'il y avait derrière, etc. Mais peu importe, c'était un bon roman, magnifique, que j'ai relu après. Donc c'est bien de lire en dehors de son âge. Donc maintenant, j'ai tendance, devenant vieux et gâteux, à lire des choses d'enfant auxquelles je prends un grand plaisir quand c'est bien écrit. Il faut mélanger les genres, en fait. Voilà, comme vous disiez, une nécessité de mettre dans des bacs précis, parce qu'il y a beaucoup de livres et qu'il faut les classer, mais par ça,
Mais quelle a été votre réaction là-dessus quand votre éditeur vous a dit plutôt jeunesse ou qu'on vous retrouvait OXA au rayon jeunesse? C'est plaisant, c'est étonnant, c'est dérangeant, c'est...
Bah, nous en fait on a un cas un peu particulier. Notre éditeur n'a pas eu le choix, donc voilà, on a un parcours un peu atypique dans l'édition. Ben non, enfin en plus XO, notre éditeur ne fait pas de jeunesse. Hein. Donc, à part un autre auteur jeunesse aussi, hein, mais, enfin,
non, après, ça correspondait, en fait, donc c'était pas... Ouais, jeunesse, bah oui, c'est bon, ça aurait été adulte, c'était bon aussi. On n'est pas très compliqué, en fait, comme fille, voilà. Mais c'est vrai que je pense aussi que quand on a un héros qui est jeune... c'est souvent presque systématique. Finalement, il n'y a pas de... Enfin, je me rends pas tellement compte, mais il me semble qu'il n'y a pas tellement de héros ados en littérature adulte, finalement. Est-ce que c'est l'âge aussi du héros qui détermine ça? Peut-être. Ouais.
N'en dites pas plus, c'est ma prochaine question. Non, Emmanuel, même question, bord dommage. Peut-être... est-ce que quand vous l'avez écrit, vous pensiez au public plutôt jeune ou pas jeune? Il est publié chez Castelmore. Est-ce que vous avez fait d'autres maisons d'édition? Comment ça s'est passé?
Ça marche pas. Si.
Ouais.
En fait, au départ, j'ai écrit cette histoire sans penser vraiment à l'âge. Et a priori, ça pourrait plaire aussi aux grands parce qu'il y a pas mal de références adultes dedans. De séries télé, de livres ou de Dumas que j'aimais beaucoup quand j'avais 12 ans justement. Et après par contre, si c'était à recommencer, je ferais peut-être pas la même chose parce que je travaille avec des adolescents maintenant et je me rends compte qu'il y a quand même certains trucs à avoir pour capter leur attention et qu'ils sont peut-être pas tous dans bord de marge.
Ça veut dire quoi, certains trucs à avoir?
Est-ce
qu'il y a un exemple ou deux qui pourraient nous aider?
Je l'aurais lu le début, en fait, et mon début est trop long, déjà. Il faut vraiment capter leur attention dès le début. Si ça les emmerde, dès la première ligne, c'est mort. Il faut absolument aussi que les sujets les touchent. Si vous parlez d'une personne qui a 40 ans et que... Enfin, voilà, en général, ils préfèrent que le héros ait leur âge et qu'il puisse s'identifier. Et, moi, j'aime bien mettre... du bon vocabulaire, c'est-à-dire que tout ce qui se passe dans bord de marge, il y a deux mondes de fiction, il y en a un qui est la réalité et l'autre qui est donc bord de marge, qui est un monde de cap et d'épée. Donc dans celui-là, j'ai mis du vocabulaire du 17e siècle, du félon, du estourbir. Ils comprennent pas toujours, mais en général, ça leur parle parce que ça les met dans l'ambiance et voilà. Mais sinon, c'est vrai que dans la partie réaliste, j'aurais fait quelque chose d'un peu plus punchy, accrocheur, si j'avais su.
Pareil, vous auriez changé des choses si vous aviez su?
Non. C'est, on la voyait comme ça, c'est une vraie ado d'aujourd'hui, avec son vocabulaire. Elle est en phase. Elle est en phase, donc, et tous les personnages sont en phase avec leur âge, avec la façon de parler. Mais je te rejoins pas mal par rapport au vocabulaire. Et je trouve qu'on peut se permettre, c'est pas parce qu'on écrit pour la jeunesse qu'il faut faire des phrases courtes, voilà, sujet, verbe, objet. On peut se permettre, et il y a une capacité de compréhension et d'appréhension, je dirais, d'un vocabulaire et de tournure de phrases aussi qui peuvent être beaucoup plus recherchées que ce qu'on peut nous cantonner finalement à faire. On peut se permettre plein de choses.
Moi, je pense qu'il n'y a pas de recette magique non plus. On peut parler de tout avec un langage un peu particulier qui date de Dumas. Après, je pense pas qu'il y ait une technique. Oui, il y a des choses dans le réel qui les intéressent, mais ils restent curieux aussi de plein de choses. Après, c'est vrai qu'il y a une façon de le dire, mais je pense qu'on peut tout dire. Ça j'en suis certaine.
Ah, celui-là marche, non? Oui, d'accord aussi avec ça. Mais moi, dans Samien, je me suis effectivement, il y a un petit jeu sur les noms, tous les noms d'endroits, tous les noms de lieux. En fait, c'est des références assez pointues. Alors, quand il y a les lecteurs adolescents, ils passent à côté parce qu'ils ne peuvent pas les avoir. C'est pas grave. Ils entendent des mots qui peut-être ont un les font rêver, j'espère. C'était le but de l'opération. Mais pour qui connaît, il y a beaucoup de médecine. Parce qu'en fait, j'ai découvert que dans le vocabulaire médical, il y avait des mots que je trouve extraordinairement poétiques. Donc je m'en suis servi, mais j'en ai fait autre chose. Et il y a à peu près, je crois, toutes les espèces de champignons qui sont amenées dans l'histoire d'une manière ou d'une autre, qui vont désigner des étoiles, qui vont désigner totalement autre chose que les champignons. Parce que là aussi, mais c'est des mots que, voilà, c'est le plaisir des mots. Et pour qui connaît ces clés-là, c'est rigolo, il se dit, ah oui, tiens, le sagouin, il s'est amusé à piocher dans l'encyclopédie tel et tel mot. Et pour les jeunes qui le lisent, bah, ils se disent, ah, c'est, je sais pas, enfin, j'espère qu'ils se le disent, ce mot, et ah, cet endroit me fait rêver. Voilà, il faut jouer avec tout ça.
Est-ce que c'est facile pour un écrivain de se mettre dans la peau d'un jeune héros? Et qu'est-ce que vous avez mis de vos souvenirs, de ce que vous étiez, de ce que vous êtes?
Moi, j'étais prof de sport donc, en collège, donc c'est un public que je connais bien, mais je pense que ça ne suffit pas. Je pense que ça m'a permis de les connaître et de comprendre certaines choses. Après, ouais, il y a nos souvenirs, il y a, ben, en fait, on grandit, mais on n'oublie pas, ce qu'on a été ou ce qu'on est. Moi, je me pose pas plein de questions. J'écris, naturellement, avec des problèmes actuels, oui, hein, mais, je me pose pas de questions. Enfin. Je pense qu'il faut rester. Et puis le centre, si c'est un truc hyper trafiqué, un adulte qui écrit, genre, il veut écrire jeune avec des mots jeunes, mais ça sent, quoi, c'est pas naturel. Il faut rester ce qu'on est. Hein, et on a plus de chances de les séduire en étant ce qu'on est, en transformant des trucs. Je pense, hein.
Le fait d'avoir aussi des ados autour de soi, moi j'en ai une à la maison, donc je pratique intensément. Parce qu'on oublie un peu ce qu'on a été, et puis ce qu'on a été est tellement différent de ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est un peu loin maintenant. Donc c'est vrai que c'est... Bien sûr que je remets des choses, parce qu'il y a... Il y a une conception et il y a des étapes de l'adolescence qui, ça, sont inévitables, quelles que soient les générations. De toute façon, là, ça ne bougera jamais. Je pense que dans 1000 ans, un ado aura aussi des problèmes que nous, on pouvait avoir. Et ça, voilà, c'est inévitable. Mais le côté plus, ouais, au niveau du langage, au niveau du comportement, au niveau de l'audace qu'ils peuvent avoir aussi, les ados aujourd'hui, qu'on n'avait pas forcément il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est vrai que d'en avoir une à la maison, c'est clair que ça m'a beaucoup aidé. Il y a beaucoup de ma fille dans ce qu'est OXA et aussi dans ce que moi j'étais en tant qu'ado. Hein.
Ça a été facile de se mettre d'accord sur ce qu'elle est, votre héroïne, à deux?
Oui, assez. On l'a définie très vite et elle était assez, assez cohérente par rapport à la conception qu'on avait d'elle, l'une et l'autre. Oui, oui, oui. Ouais.
Colin, même question, puis Emmanuel, ce sera
Moi, j'ai à peu près un âge mental de 12-13 ans, donc ça n'a pas été très compliqué, finalement. Et sinon, mon Samien, c'est exactement ce que je ne suis pas. Il est courageux, il est entreprenant, il est formidable. Donc c'est une espèce de moi idéalisé, finalement. Certainement, on va pas faire la psychanalyse du truc, mais ça doit être un peu ça, en fait. C'était un grand plaisir d'avoir d'envoyer dans des aventures incroyables ce jeune héros que je ne suis pas. J'ai pas eu d'aventure incroyable, ce que je regrette un petit peu. Donc grâce au livre, je peux les avoir.
Emmanuel.
Mes personnages sont pas des ados. Ils sont beaucoup plus grands, mais à partir du moment où ils passent dans le monde de fiction, ils deviennent intemporels, en fait. Ils prennent les caractères d'un personnage de fiction, et donc on peut pas vraiment leur donner d'âge. Mais sinon, j'ai écrit l'histoire pour l'ado de 12 ans que j'étais, c'est ce que j'aurais aimé lire à l'époque. Je voulais quelque chose plein de magie, j'aimais beaucoup le cap et d'épée, j'aimais beaucoup aussi la confrontation entre la fiction et la réalité, parce que là, l'histoire, c'est donc une bibliothécaire de notre époque qui passe dans un livre de cap et d'épée. Donc, voilà, j'ai mis un peu tous les ingrédients que j'aurais aimé lire à l'époque.
Et est-ce que vous avez mis de vous, entre guillemets?
Oui, pas mal. Disons que j'ai deux héroïnes, Roxane. D'ailleurs, les lecteurs me disent toujours « Ah, mais c'est vous sur la couverture ?» Non, non, c'est pas moi, c'est Roxane, mais a priori, elle me ressemble quand même pas mal. Et Violette, qui donc est la bibliothécaire, ce que j'ai été. Et il y a aussi quelques petits points communs.
Pourquoi choisir des héros adolescents et pas des guerriers barbares ou des petits vieux?
L'adolescence, pour moi, il y a quelque chose de magique dans le sens où c'est la période où la métamorphose est la plus spectaculaire, je pense, dans toute notre vie d'être humain. Là, ça bouillonne, ça change d'une façon des fois monstrueuse ou terriblement tendre. Voilà, c'est l'être qui a grandi. Et là, il y a ce basculement vers l'adulte qu'on va devenir. Et j'aime bien ce côté. Ouais, pour moi, il y a un côté magie monstrueuse, quoi, de voir cette transformation en quelques mois. C'est énorme quand même, ça. C'est, voilà, j'aime bien cette période-là. Je trouve que c'est un terreau hyper riche, hyper fertile et totalement ouvert, ce qui n'est peut-être pas possible plus tard.
Oui, moi, c'était surtout l'image de soi. Je veux dire, les ados, il y a tout ce côté, on grandit, on ne sait plus vraiment qui on est, puisqu'on se transforme presque du jour au lendemain. Et non, mais c'est vrai, des fois. Mais non, mais quand on est adulte, des fois, on a l'impression que du jour au lendemain, ils sont différents. C'est vrai, hein. Voilà, et je trouve ça hyper troublant. Alors déjà, en tant qu'adulte, c'est troublant. Alors, eux, c'est catastrophique des fois. Voilà, moi c'est vraiment une période où je les trouve tellement fragiles et tellement sauvages des fois avec les adultes. C'était vraiment une période qui moi que j'adore, je préfère les ados aux adultes. Ils sont plein de choses qu'ils découvrent mais ils ne savent pas le montrer, ils ne savent pas le dire, et tout ça me plaît beaucoup.
La dimension initiatique est importante?
Oui, dans nos livres, à nous, oui.
D'accord. Ok. Colin, même
oui,
chose.
C'est ça, c'est un peu tout. Moi, c'était l'idée d'écrire un roman initiatique, donc c'est forcément, effectivement, à l'adolescence, où ce que tu disais tout à l'heure, tout est possible. C'est ça qui me plaisait, dans tout est possible dans un monde imaginaire où tout est encore possible. Là, ça ouvre vachement de portes, c'est pas mal. Mais moi, j'ai eu un petit souci entre le premier tome et le deuxième, puisqu'il y en a un deuxième, où tout d'un coup, mon héros avait grandi, malgré moi, et je me suis trouvé confronté à quelque chose que je n'avais pas du tout prévu, c'est-à-dire que je n'avais plus un ado. Il avait, après tout ce qu'il avait subi, parce qu'il en subit pas mal dans le premier volume, c'était devenu un adulte. Et en fait, là, ça a commencé à beaucoup m'amuser, parce que je me suis dit, en fait, non, il n'est pas vraiment devenu adulte, il est toujours resté à une espèce de stade, un peu ce que je disais tout à l'heure, comme moi, d'adolescent très très attardé, enfin moins attardé parce qu'il est plus jeune. Et en revanche, j'ai commencé, il a une copine, il a rencontré une fille au cours de l'aventure, dont il est amoureux, etc. Et c'est elle qui devient, c'est elle qui a grandi. Et dans le deuxième volume, elle devient en fait quasiment plus importante que lui. Et s'il y en a un troisième un jour, je pense que ça va devenir les aventures d'Éphélide et non plus celles de Salmien.
C'est une question qu'on pose souvent aux auteurs. En fait, est-ce que vous êtes surpris parfois par vos personnages?
Totalement.
Dans ce qu'ils font? Quelle réalité? Racontez-nous un peu.
Ils nous emmènent un peu. On a l'impression de les, qu'on les fait vivre, qu'on choisit leur histoire. Et finalement, des fois, on est pris au piège parce que. Que ce soit ou Anne ou moi, on veut en tuer un, ou voilà un truc dans le genre, et on s'aperçoit qu'on peut pas parce que il y a plus de cohérence avec l'histoire, et on les aime, mais on maîtrise pas toujours leur histoire en fait. Ils nous dirigent aussi vers ils nous emmènent en fait dans l'histoire.
En fait, ils ont une logique de personnalité que pourtant on a créée. Qui finit par nous échapper parfois. Nous, on a un personnage qui était secondaire, mais même bien plus loin que secondaire, et qui était destiné à le rester. Et c'est vrai qu'il il a su s'imposer, parce que l'intrigue, je ne sais pas, c'était peut-être sous-jacent aussi, et très intérieur, et voilà. Mais alors, le fait est que voilà, il a glissé tout doucement au premier plan. On s'en est rendu compte en même temps au tome 4. On s'est dit, mais pratiquement le même jour, on s'est dit, attends, lui, il y a un truc, quoi. On peut pas le laisser là où il est, c'est pas possible. On est revenu en arrière, on a mis à la poubelle 150 pages. Et on a repris le truc sur cette logique-là, parce que voilà, sa personnalité, sa destinée, on devait en faire quelque chose d'autre que ce qui était prévu. Donc là, ouais, je croyais que c'était un mythe d'écrivain avant, quand je n'écrivais pas, me dire « Ouais, attends, ça va, le personnage qui prend le pouvoir sur toi, faut pas exagérer. » Et ben, c'est tout à fait vrai, vraiment.
C'est plus intéressant, en
fait. Ben oui.
Série, enfin nous en tout cas, c'est assez codifié. En plus on est deux, donc il y a un peu un storyboard, donc ça c'est un peu planifié. Et ce qui est intéressant, c'est les imprévus. Donc quand ils nous emmènent dans des trucs où on n'avait même pas imaginé, c'est bouleversant. Et puis on est tellement emballé que voilà, c'est moins mathématique quoi, c'est plus.
Emmanuel.
Non, moi je fonctionne pas du tout comme ça. Je dois être super sadique parce que mes personnages ils font absolument ce que je veux et j'adore les zigouiller. Donc j'ai jamais
moi,
vécu ça.
Tuer, hein. Justement, et après elle pleure donc. voilà quoi.
Non, j'aime bien. Je me dis, ah, ça va être tellement cool, ça va être beau et tout. Là, hop, viens, vas-y. Non, j'aime bien.
Il y a des auteurs pour qui ça devient presque des amis, hein, des gens qui viennent leur parler. C'est le cas pour vos deux héroïnes ?
Pour mes deux héroïnes, oui. Elle ne meurt pas à la fin, celle-là. Mais sinon, il y a pas mal de personnages secondaires qui y passent. mais ça ne dérange pas de les tuer aussi, parce que je me dis, bah, si ça fait mieux dans l'histoire, si c'est bon pour l'intrigue, bah, voilà. Et puis, après, c'est fini. Enfin, et puis, je fonctionne pas trop en termes de trilogie, de saga. Enfin, voilà, en général, j'aime bien faire un truc, et puis je passe à autre chose, parce que j'ai tellement d'idées dans la tête que je préfère changer complètement d'univers après. Donc, bah, s'il meurt, que je peux plus rien en faire, c'est pas grave.
Colin.
Non, mais moi, je suis comme mes camarades à gauche. Les personnages m'entraînent. Quand je commence à écrire, je ne sais absolument pas où je vais. Donc, je me dis que si j'arrive à me surprendre moi-même, normalement, le lecteur devrait être surpris aussi. Ce n'est pas une mauvaise méthode. Mais du coup, on ne sait pas où on va. Donc, c'est parfois impressionnant. On peut arriver à des impasses, d'ailleurs, ce qui m'est arrivé deux, trois fois, où tout d'un coup, c'est un mur devant et c'est terminé. Et tout ce travail n'a servi à rien, quasiment. Donc, il faut recommencer à zéro. Mais sinon, c'est excitant. Et effectivement, il y a des personnages qui surgissent, d'autres qui se mettent à avoir une vie propre. Donc, on va les suivre. Enfin, c'est assez... C'est assez étonnant. Non, moi je ne maîtrise rien du tout. Alors.
Qui dit lecture littérature jeunesse dit aussi de jeunes lecteurs. Et une des spécificités, ce sont les rencontres. Vous avez sans doute tous fait des rencontres, que ce soit avec des élèves, des étudiants ou dans des salons. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est étonnant ? Quel est le regard qu'ils portent sur vos bouquins ? Est-ce que parfois, justement, ils portent un regard que vous n'aviez pas prévu ? Comment ça se passe avec jeunes lecteurs, Emmanuel ?
Moi, comme j'étais bibliothécaire, donc j'ai travaillé en jeunesse quelque temps, et un de mes collègues avait acheté mon livre sans dire que c'était moi qui l'avais écrit. Et j'ai eu pas mal de jolies rencontres, mais surtout une qui me plaît beaucoup, que j'ai envie de raconter. C'est un jour, il y a une jeune femme de 14 ans, 15, qui arrive, qui va voir mon collègue et qui lui dit est-ce que j'ai le droit d'emprunter deux fois de suite un livre, parce que bord de marge, là, j'ai vraiment adoré, c'était trop bien. Et il me regarde et fait... Tu devrais mieux le dire à elle, là. Pourquoi ? C'est elle qui l'a écrit. Et là, elle me regarde, elle est restée figée pendant, pendant une demi-minute. Et je dis, mais faut pas t'en faire, c'est bon, ne te mets pas à pleurer. Fait, et après, elle n'arrivait vraiment pas à parler, donc je suis allée un petit peu entre les étagères pour qu'on soit tranquille. Et on a discuté à la fin, c'était moi qui étais plus émue qu'elle, parce qu'elle m'a vraiment touchée, elle avait... vraiment tout compris, enfin, de mon livre, elle avait relu, elle avait adoré. C'était la première fois que je parlais d'un personnage avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle était très amoureuse du pirate qui est dedans. Et c'était vraiment une jolie rencontre.
Colin ?
Bon, il y a eu beaucoup de rencontres, effectivement, parfois très sympathiques. Alors, de manière générale, moi, j'ai toujours eu une petite tendresse pour les élèves de collège ou de lycée technique. Parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts en fait, et ils posent des questions incroyablement sincères et incroyablement pointues qui vous remettent bien soi-même en question. Ça, c'est assez intéressant. Et sur, j'ai un recueil de nouvelles qui a pas mal tourné dans les collèges. Et alors là, c'est un peu étrange parce que c'est, bon, chaque nouvelle est évidemment est très différente, chaque thème est différent, et ils accrochent toujours sur les mêmes. Là, ça m'a un peu déprimé. Non, parce que c'est, on me parle toujours des mêmes. Il y en a deux, trois qu'ils adorent, et les autres, elles sont totalement écartées. Et celles qu'ils adorent, c'est celles où qui mettent en scène des ados de leur âge uniquement. Donc là, je me suis dit, ah, on est un peu, ça c'est un peu restrictif, quoi. Donc après, on se dit, est-ce qu'il faut vraiment écrire à chaque fois pour des ados? Là, justement, pour revenir au début du débat, ça pose un peu la question. J'ai décidé que non, mais voilà. Il y a une anecdote, si je puis me permettre, qui m'a fait beaucoup rire. J'ai écrit une nouvelle d'un goût peut-être discutable sur une apparition de la Vierge Marie à une jeune fille qui ne s'y attend pas et qui n'est pas vraiment faite pour ça et qui ne sait pas de quoi il s'agit d'ailleurs puisqu'elle n'a pas d'éducation religieuse. La nouvelle a circulé dans beaucoup de collèges, y compris des collèges catholiques. J'étais un petit peu embarrassé en me disant « Oula, ça va, qu'est-ce qu'on va me sortir là-dessus ? Bon, on est toujours... » Et en fait, il ne s'est rigoureusement rien passé nulle part. Et les élèves m'ont souvent parlé de cette nouvelle qu'ils aiment bien, mais ce qui les ils n'ont en fait pas compris de quoi je parlais. C'est-à-dire qu'ils se sont... C'est le journal d'une jeune fille qui raconte « il y a une dame qui apparaît, etc. » Elle ne comprend pas ce qui arrive. Et on me parle de ça, ça les fait rire parce qu'il y a un petit frère rigolo. Bon, mais l'apparition elle-même, zéro. Et en fait, les profs avec qui j'ai parlé de ça après m'ont dit « Non, mais c'est pas grave, de toute façon, ils savent pas de quoi il s'agit. » Et la plupart, soit ils ont une autre religion, qui n'est pas la catholique, soit ils en ont pas du tout. Donc ils s'en foutent totalement. Voilà. Comme quoi, on a aussi des surprises.
Est-ce que là, vous vous dites « J'ai raté mon coup »
Ou est-ce que, au contraire, non, pas du tout. Mais bon, c'est voilà, moi je pensais que tout le monde était au courant et que c'est, et justement les lecteurs vont chercher autre chose dans la nouvelle. Ils ont été piqués sur d'autres endroits où, et les nouvelles qu'ils aiment bien, moi c'est pas forcément mes préférées. Je me dis tiens, c'est celle-là les touche. Tiens, pourquoi? Voilà, on se pose des questions après. C'est intéressant.
Même question.
Alors nous, on doit notre succès à nos lecteurs, parce que sans nos lecteurs, on serait pas édité. Hein. Pour nous c'est ouais.
Non, parce que je sais que c'est un sujet qui est sensible pour elle. Non, on a en fait, on a une tendresse particulière pour eux, toujours, hein, une reconnaissance aussi infinie, hein, et parce qu'ils sont le point de départ de toute cette histoire, et voilà, c'est vrai qu'il y a c'est toujours des belles rencontres en fait. Et il y a une certaine fierté aussi, je l'avoue, voilà, quand un gamin arrive, je dis un gamin parce que c'est peut-être un peu amplifié quand il s'agit d'un garçon, les garçons sont réputés être moins bons lecteurs que les filles, donc ça me touche d'autant plus quand c'est un garçon, quand c'est par exemple leur premier gros livre. Et ils ont cette fierté de venir dire, je l'ai lu en entier, j'ai lu toute la série, c'est mon premier gros livre. Ils ont cette espèce de fierté qui finalement ils nous la communiquent, ils nous la donnent. Et j'aime beaucoup ce sentiment. Ça me dope personnellement. Et c'est vrai qu'il y a parfois des réactions qui peuvent paraître extrêmes. Moi j'ai le souvenir d'une jeune fille qui sa mère la poussait à le renvoyer en état une dédicace. Elle était tout au bout de la file et ça faisait 2 heures qu'elle était là, 3 heures. Le temps passait. On la voyait toujours au bout. Papa osait approcher, la mère a fini par la pousser à s'approcher de nous, hein. Et elle arrivait, elle avait la lèvre qui tremblait, tout son corps tremblait, c'était terrible. Je savais pas quoi faire pour elle. Toi, t'étais en dessous de la table quasiment, tellement c'était déstabilisant d'avoir provoqué en fait, et de par sa simple présence de provoquer une émotion pareille. Et elle arrivait, je lui dis mais détends-toi, je savais pas quoi lui dire. Je lui dis un truc très bête, je lui dis tu sais on est en... Oui, Laura, là, qui mais t'as osé, t'as finalement osé. Hein. Mais et je lui ai dit cette chose très bête, tu sais, on est des gens comme les autres. Et en fait, ça lui a pas du tout plu. Elle a écarquillé les yeux. Elle m'a dit, ah ben non, hein. Elle était pas contente que je lui ai dit ça. Je savais pas quoi lui dire honnêtement. Elle était dans un tel état de d'émotion. Hein. Et non, elle voulait pas qu'on soit des gens comme les autres. Et j'ai mis du temps à comprendre ça. Je m'aperçois que je fonctionne aussi comme ça quand il y a des auteurs que j'admire vraiment, qui font partie, ils ont changé quelque chose dans ma vie. Ça peut être un quart de seconde, mais c'est pas grave. Ils ont changé quelque chose. Ils m'ont procuré un bonheur, une émotion, quelque chose. Et ces gens-là, je ne peux pas les approcher. Pourtant, je fais partie maintenant de ce même monde. Je veux dire, on fait le même travail. Eh bien, ouais, je suis comme cette jeune fille. Je vais être toute tremblante. Je ne vais pas oser les approcher. Et c'est pas possible. Donc ça, je le comprends. Mais j'ai mis beaucoup de temps parce que je me suis dit, oui, tu es quelqu'un comme les autres. Tu fais ton travail. Tu le fais du mieux possible, comme des tas de gens partout sur Terre. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas de différence. Mais le côté, finalement, un peu sacré de l'auteur, je pense qu'il faut le respecter. Et pas forcément... C'est pas se mettre en hauteur, mais c'est respecter qui vous voit comme quelqu'un de différent, quelqu'un qui leur a apporté quelque chose à un moment donné, et pas forcément essayer de démystifier tout ça à tout prix. S'ils ont envie de voir en vous quelqu'un d'admirable, ben pourquoi pas? Pourquoi pas si... Voilà.
Mais dans toutes ces réactions fortes, quand on se retrouve après derrière devant son ordinateur en train d'écrire une autre histoire ou la suite, quelle place ils ont à ce moment-là, ces lecteurs? On y pense sans cesse?
Oui, mais on leur doit quand même... On leur doit ce qu'ils nous ont donné. Oui.
Pas dans la façon d'écrire, par exemple, nous, c'est une série, c'est vrai, beaucoup de gens nous disent « Ah, j'aimerais bien qu'il finisse avec machin, faut pas le tuer » ou des choses comme ça. Si on les écoute, et puis voilà, et ça fera des heureux et des pas heureux, et nous, on a envie d'écrire ce qu'on a envie d'écrire, donc ils le lisent comme il est, quoi. Mais c'est vrai que dans nos rapports, voilà, on est plus disponible pour eux, ben, sur les réseaux, ou des fois on organise des grandes fêtes sur Paris ou à Strasbourg, mais là on a des petits moments privilégiés avec les jeunes qui étaient là dès le début, hein, qui ont grandi aujourd'hui, qui ont 16, 17 ans, donc on les a aussi vus grandir, et c'est hyper marrant. C'est
Emmanuel, Colin, pareil, les lecteurs et...
Non, une fois qu'on est revenu devant l'ordinateur, c'est... Enfin, moi j'oublie, là, c'est autre chose. C'est des moments séparés, je dirais. Je pense pas que ça aide. Si, peut-être ça a une influence inconsciente, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble pas. Oui, voilà, oui, c'est ça. Ça, c'est bien, oui. Oui, bonne idée, oui. Je la replacerai.
Emmanuel.
Bah, j'ai pas écrit de suite, donc j'ai pas pensé non plus à ce qu'il faudrait avoir ou pas dans mes prochaines histoires. Et comme le public est différent selon ce que j'écris, j'y pense pas non plus. C'est peut-être un peu égoïste, mais j'écris d'abord ce qui me fait plaisir à moi. Et après, on voit.
Et une autre question sur, pour le coup, les adultes, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, quel rapport vous avez avec eux? Puisque c'est plutôt en général leurs enfants qui vous lisent.
Ben, nous, en fait, on a eu la surprise et la chance de que ça soit une lecture familiale. C'était pas du tout, j'avais pas du tout imaginé ça au départ. Et puis il s'avère que c'est comme les parents qui achètent les livres, hein, en général. Surtout sur les salons, voilà, on voit c'est les familles, c'est les parents quand même qui sortent le porte-monnaie. Donc, au-delà de ça, c'est vrai que les parents se sont beaucoup appropriés aussi la série, les grands-parents. On a des grosses surprises aussi de voir des pompiers de 2 mètres, qui ont plus un physique de rugbyman, qui viennent s'acheter la suite pour lire pendant leur pause. Donc ça fait partie aussi du lectorat un peu inattendu, et c'était pas du tout ni la cible inconsciente de départ, ni la nôtre, ni celle de l'éditeur. Mais voilà, ça touchait un public beaucoup plus large que ce qu'on pensait. Donc on en est très heureuse. Ça n'influence pas notre écriture, ni rien d'autre d'ailleurs, mais c'est une surprise collatérale, je dirais, oui.
Emmanuel ?
Vous pouvez répéter la question?
Le rapport et la réception des adultes,
les adultes,
des parents,
en fait,
des enseignants.
Bord de marge, c'est une histoire qui, je crois, touche vraiment toutes les tranches d'âge, et j'ai pas un public particulier. J'ai des adultes, j'ai des enfants, j'ai des hommes, j'ai des femmes. En général, comme Il y a pas mal de références littéraires, il y a plusieurs niveaux de lecture, donc j'ai le même rapport qu'avec un livre adulte, j'imagine.
Une petite question sur la littérature jeunesse. Une fois que vous avez pris conscience que du coup la série était plutôt en jeunesse, ou même chose pour Samiens, est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas permis? Ou est-ce que ça a changé des choses? Le gore, le sexe, les relations humaines...
Ouais, mais après, c'est du bon sens, d'adulte. Non, on s'est pas limité. On a, oui, certaines choses, oui, mais pas tellement, en fait.
Après, je crois qu'on peut tout dire. Tout dépend de la forme qu'on va adopter, mais on peut arriver quasiment à tout dire. Il faut juste travailler un petit peu la façon de le présenter. Pour une autre série qu'on a écrite, Suzanne Hopper, il y a une scène qui était peut-être un peu crue. Et là, on n'avait pas... du coup, on avait complètement fait abstraction du côté jeunesse du lectorat. Et là, c'est notre éditeur qui a dit « Attention, rappelle-toi, t'écris pour la jeunesse. » Donc, il faut... voilà. Et finalement, on a fini par dire exactement la même chose, mais d'une autre façon. Donc, oui, c'est peut-être plus sur la forme où il faut être un petit peu plus attentif qu'on ne le serait que si on écrivait pour des adultes. Mais ouais, on peut tout faire passer. On fait passer un tabou énorme, qui... finalement, on a eu un petit peu peur. On s'est dit « Comment ils vont prendre ça ?» C'est quand même choquant. Eh ben, en fait, ils ont vraiment intégré ça de façon hyper naturelle. Et on n'a pas été cru dans notre façon de le présenter. Et c'est ce qu'il fallait.
Oui, Manuel, pardon.
Maman, il n'y a pas de sexe dans celui-là. Donc, la question ne se posait pas. Par contre, j'ai un personnage qui, quand il en touche un autre être humain, lui inflige une maladie mortelle qui le couvre du pustule. Et ça, en fait, ça les fait beaucoup rire. Ils aiment beaucoup le gore. Donc, et à la fin, il y a une grosse bataille qui finit en charpie. Tout le monde y passe. Il y a plein de bottes, de coups pas possibles. Mais ils adorent. Enfin, ça les choque pas.
La charpie pour les jeunes.
Oui, moi, je me suis pas censuré. En fait, dans Samien, il y a une assez longue scène de bordel. Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la manière effectivement de l'écrire. Enfin, moi, je suis un écrivain effectivement plutôt une personne plutôt pudique, donc ça doit passer. Enfin, ça, j'ai pas eu de protestation de l'être scandalisé ou quoi que ce soit, et l'éditeur n'y voyait aucun inconvénient. Donc tout s'est bien passé. Non, il faut pas censurer, je crois pas. Effectivement, hein, ce serait dommage. Le tout est, oui, après, c'est quand on écrit, c'est voilà, on amène d'une façon ou d'une autre.
Petite question sur l'après, hein, pour tous les trois. Colin, vous disiez que vous vouliez faire complètement autre chose, repasser à l'adulte, entre guillemets.
Moi, j'ai un petit problème, c'est que je suis une espèce de papillon qui se pose sur différentes fleurs, jamais les mêmes. Donc, effectivement, j'ai fait du polar, il y a des aventures jeunesse. Là, j'en ai fait un pour les plus jeunes. J'ai été du côté de la bande dessinée. Et non, le prochain, là, je suis en train de faire du théâtre. Donc, je ne sais pas très bien où je vais, à vrai dire.
Qu'est-ce qui est différent, alors?
À chaque fois, c'est une écriture différente, quand même. Et à chaque fois, on met autre chose en place. J'ai une espèce de boulimie de tout, ce qui est très, très mauvais d'un point de vue commercial, parce que les gens ne savent pas où vous situez. Donc, je dis, mais où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait? Qui c'est qui ce gars? Et on a effectivement, on court le risque de faire tout mal, au lieu d'une seule chose bien. J'assume. Je ne sais pas. C'est au lecteur d'en juger après. Donc les prochains projets, je ne sais pas très bien où je vais. J'ai une idée de polar en tête, une autre idée, un roman historique, ce que je n'ai jamais fait, donc je vais peut-être essayer ça. Il faut que je m'amuse et que moi-même au départ, hein, sinon ça ne marche pas.
Emmanuel, pareil, sur la suite, vous disiez vouloir faire autre chose.
Ah oui, je suis pareil, moi, il faut que je m'amuse, donc je passe d'un truc à un autre, et le prochain c'est de la romance historique, donc... Rien à voir.
Et est-ce que ça change dans la manière de l'aborder, de le travailler, de... Je parle de travail d'écrivain, ça me
fait... Surtout la romance, il y a quand même des codes. Pour la romance historique, en fait, j'ai choisi une période, 1884, que je... Enfin, c'est pas que je la maîtrise parfaitement, mais disons que ma grande passion, c'est la littérature classique. Je suis très fan de Zola, Donc, en fait, c'est un petit peu comme si je connaissais déjà. J'ai eu juste à faire quelques recherches, évidemment, par-ci, par-là, pour certaines inventions, savoir si pile cette année-là, c'était bon ou pas. Mais sinon, globalement, ça allait.
Et vous, Suzanne Hopper, plutôt de la jeunesse aussi?
Oui, aussi. Hein. Oui, donc, prochaine...
Ça veut dire que c'est une voie que vous allez continuer d'explorer ou est-ce que vous avez...
Oui, a priori, c'est vrai qu'on aime bien les histoires de jeunes gens. Voilà, donc avec Suzanne Hopper, une autre histoire de jeune fille, plus intimiste et plus sombre. Et maintenant que la série Oxa Pollock est terminée, en fait, on prend ce personnage, justement, qui était très secondaire, et on fait un trait d'union, en fait, vers une autre aventure avec ce personnage et quelques autres de la série qu'on n'a pas eu le temps de trop connaître. Et c'est une façon pour nous de faire des choses autrement, parce que là, on est plus... justement, si on classe en termes d'âge, on est plus sur des choses grands, ados, jeunes, adultes. Enfin, c'est le classement officiel, on va dire, puisque les héros grandissent. Donc, c'est vrai que ils font à 18 ans, on fait pas les mêmes choses qu'à 13. Hein, donc, on les suit et on se cale sur eux, en fait, par rapport à cette logique de maturité. Hein. Voilà, et puis dans des projets, on en a pour, je sais pas, les 10-15 ans à venir, à peu près. Donc, voilà, plus tous ceux qui se rajoutent en cours de route. Et c'est illimité. Hein.
Alors, on a la chance d'avoir Stéphane Marsan dans le public. Non, je voudrais juste en profiter, si tu acceptes, ton regard d'éditeur, donc Stéphane Marsan qui dirige Bragelonne, sur la différence entre littérature jeunesse, ton point de vue à toi d'éditeur, quand un bouquin arrive, comment tu dis, bon, ça plutôt sur un bouquin jeunesse, ça plutôt sur une collection adulte. Attends, je te donne un micro.
Merci, désolé de faire irruption dans votre... Mais je pense que vous avez très bien évoqué ça, c'est-à-dire qu'il y a d'une part ce que l'auteur a envie d'écrire de toute façon sans se poser la question, ce qui lui tient à cœur, son histoire, ce qui le fait vibrer, et puis ensuite, y a mon métier d'épicier qui est où est-ce qu'on le met de façon à ce que le public ait le plus de chances de le trouver. Et je trouve que, il se trouve que j'ai travaillé avec Emmanuel sur Bord de Marge et j'ai eu la chance, pour l'anecdote, Emmanuel, je l'ai rencontré en speed dating ici aux Imaginales quand elle était bibliothécaire. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été dans une pizzeria ici et on a écrit sur la nappe en papier un peu tout ce qui lui passait par la tête. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu aimes? Et alors, Théophile Gautier, Tim Burton, enfin voilà. Et on s'est pas du tout demandé à ce moment-là, attention, est-ce que c'est un truc pour la jeunesse? Est-ce que c'est un truc pour les adultes? C'est d'abord vous, vos âmes d'écrivain, les histoires qui sont en vous. Et ensuite, éventuellement, il faut faire des ajustements, et vous l'avez très bien évoqué, tous autant que vous êtes. Bon, alors, si on va plutôt de ce côté-là, qu'est-ce qu'il faut mettre en évidence, qu'est-ce qu'il faut mettre en lumière? Je vais profiter du fait que tu me donnes la parole pour poser la question que je voulais poser. Parce que, pour rebondir sur l'anecdote formidable d'une gamine de 14-15 ans amoureuse d'un pirate dans un roman jeunesse, ce que je trouve génial, c'est qu'on a tendance, et c'est la question que je vous pose, on a tendance à penser qu'aujourd'hui, les jeunes, et en particulier les ados, sont très cyniques, ils voient du porno sur Internet, etc. Or, on peut encore aujourd'hui avoir des adolescents qui sont amoureux d'un pirate de papier. Comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez été, alors d'une part dans vos rapports aux lecteurs, étonné finalement de retrouver une innocence, quelque chose de candide, d'encore intact? Et puis dans votre travail d'écrivain, comment est-ce que vous gérez ces relations? Est-ce que c'est un enjeu pour vous tous?
Oui. En fait, nous, par exemple, dans le livre, il y a deux garçons dans l'histoire qui ont l'âge d'Oxa, et son cœur balance entre les deux. On s'est aperçu que ça avait créé à la fois une dynamique et une polémique sur les forums, où il y a carrément des équipes, alors la team Gus, la team Tube Dual, avec des arguments, mais c'était vraiment des battles, en fait, entre les deux teams. Qui se sont créés, c'était assez amusant et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout imaginé au départ, parce que c'était c'est comme une histoire magique avec il y a une jeune fille tout à l'heure qui me disait, parce qu'il y avait un poster dans le livre avec une face Oxa dans les bras d'un garçon et l'autre face Oxa dans les bras de l'autre garçon, et elle me dit ouais, mais enfin quand même faut pas oublier qu'elle a le monde à sauver, quoi, enfin les garçons ça doit passer après, quoi. Et je lui expliquais qu'il y a des tas de filles pour qui l'enjeu du livre, c'était pas est-ce qu'elle va réussir à sauver le monde ou pas, c'est avec quel garçon elle va finir. Et c'était aussi important, voire plus important, que toute l'intrigue hyper réaliste et apocalyptique et tout ça. C'était, voilà, et ça faisait partie des grosses surprises, le côté fleur bleue, en fait, qu'elles peuvent avoir malgré les apparences. Moi, je vois ma fille de 15 ans, combien elle peut être crue, parfois trash. Et en même temps, elle va être là avec les yeux tout rouges devant un beau garçon qui va lui dire un mot gentil. Voilà, c'est le côté aussi un peu déstabilisant et ambivalent de l'adolescence. Donc il y a ce côté. Et je crois que, du coup, les filles, pour elles, Tuc Dual, par exemple, c'est un garçon. Voilà, waouh, quoi. C'est de mettre les posters dans la chambre. Donc c'est quand même surprenant aussi dans notre monde aujourd'hui et rassurant aussi.
Ouais. Ben, après, ça dépend parce que nous, en France, par exemple, c'est pas la même chose qu'en Angleterre, c'est pas la même chose qu'en Allemagne, où la série est quand même un succès aussi important. Enfin, c'est la même chose en France et en Allemagne. Mais il n'y a pas d'enjeu, en fait. Puisqu'on. Ouais, voilà, c'est. Non, je vois pas d'enjeu.
À partir du moment où on développe de façon équilibrée un petit peu tous les aspects, je pense que chacun y prend ce qu'il veut. Et c'est vrai que certaines vont s'identifier plus à certains aspects de l'histoire. D'autres, ça va être d'autres choses, plus de l'intrigue, plus que de la psychologie. Et c'est peut-être à nous, en tant qu'auteurs, d'équilibrer aussi ça, à partir du moment où on a à peu près cerné notre lectorat, d'arriver à satisfaire aussi tout le monde. C'est pour ça que je parlais aussi de respect par rapport aux lecteurs. À force, on finit par les connaître, surtout sur une série. C'est peut-être moins facile sur des one-shots comme ça, où on cerne au coup par coup. Hein. Mais sur une série, on a le temps de bien les connaître. Et on répond pas forcément à leurs attentes, mais on répond à toutes les attentes.
Par contre, par exemple, nous, dans le tome 1, Oxa découvre qu'elle a des pouvoirs. Donc, on est dans la magie, dans le réel, mais dans la magie. On s'aperçoit que dans le 2, on est un peu plus dans la fantaisie, puisqu'elle rentre dans un tableau. Et à partir du 3, on est dans ce qu'on aime, on maîtrise un peu mieux ce qu'on aime, dans un peu plus politique, un peu plus... complot, des choses comme ça. Et on voit que... On change un peu de genre, en fait, à travers les 6 volumes. Et dans la nouvelle série qu'on lance, on est dans un thriller psychologique où là, la magie n'est plus... elle est plus essentielle. Ils sont ce qu'ils sont avec leur passé ou leur super pouvoir. Et en fait, c'est quelque chose que nos lecteurs aiment. C'est ce changement un peu brutal d'univers. On leur propose, de la magie... mais toujours quelque chose de très réaliste. En fait, nos lecteurs ne voulaient pas... Enfin, le côté fantasy dans un autre monde, c'était pas leur truc, en fait. C'est ce qu'ils voulaient, c'était vraiment se mettre à leur place. On vit aujourd'hui dans notre monde, et ce que nous, on ne voit pas avec nos yeux d'humain, il y a peut-être un truc derrière, et c'est ça qui leur plaît. C'est de leur proposer des... Et là, le fait de leur proposer un thriller psychologique, là, ils sont à fond, quoi. Ils sont à fond. Ils ont envie aussi d'un truc un peu plus hard, un peu plus péchu et très réaliste. Et nous, on adore, donc on est à fond dedans, quoi.
Est-ce qu'il nous reste 5 petites minutes? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Bon, je vais terminer avec la dernière, je vais revenir. Vous vous considérez comme des grands ados ou des adultes émerveillés?
Ah, des adultes émerveillés. Ah, quand on grandit, on apprend des choses, après on n'est plus vraiment des ados.
Moi, j'ai pas grandi.
Donc plutôt grands ados. Colin?
Grand ado aussi, parce qu'émerveillé, c'est l'adjectif qui me... Je suis pas émerveillé. Je suis surpris, je suis choqué, je suis parfois ébloui, mais pas émerveillé.
Anne?
Non, je suis plus une ado. Non, mais je suis pas une adulte sclérosée, quoi.
Bon, je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Et puis retrouvez-les tout de suite en dédicace ou dans l'après-midi. Merci.